Nous continuons ce matin l'étude de ce texte merveilleux qui est le prologue de Jean. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean. Au chapitre 1er, nous lirons les versets 6 à 13. C'est à la page 1188 des Bibles bleues que vous trouverez sur les bancs devant vous. Page 1188, Jean chapitre 1er, versets 6 à 13. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Le but de chaque évangile, Matthieu, Marc, Luc et Jean, est de présenter la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Si leur but est identique, la manière de le faire est différente, même si évidemment complémentaire. Et ainsi, aucun évangile ne débute au même endroit. Marc commence avec le début du ministère de Jésus. De sa naissance, de son enfance, il ne dit rien. Luc, en revanche, remonte à l'annonce, puis à la naissance de Jésus. Matthieu, souhaitant montrer l'ancrage de Jésus dans la promesse formulée à Abraham, remonte jusqu'à ce dernier en débutant son évangile avec la généalogie de Jésus. Donc au début du ministère de Jésus, à l'annonce de sa naissance, au début de sa généalogie, Jean, lui, dans son évangile, regarde plus loin encore que Matthieu. L'histoire de Jésus ne commence pas avec Abraham. Elle ne commence pas non plus dans la promesse de Genèse 3, verset 15, promesse de la descendance de la femme qui détruira le serpent Satan. Ce n'est pas l'histoire de Jésus qui commence à tel ou tel moment, mais bien plus pour Jean, c'est Jésus qui débute l'histoire, toute l'histoire. C'est Jésus qui commence l'histoire. Jean chapitre 1, versets 1 à 5. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Jean brosse un portrait grandiose de Jésus-Christ. Il souhaite montrer l'importance, la centralité de Jésus. Jésus est celui par qui tout a été créé. Il est Dieu. Il est avec Dieu. Il est la vie. Il est la parole. Il est la lumière des êtres humains. Et cette lumière est venue à notre rencontre dans les ténèbres. Et nous l'avons rejeté. Nous ne l'avons pas accueilli. Dans ce prologue de Jean, nous trouvons tous les thèmes sur lesquels il reviendra tout au long de son évangile. Le prologue de Jean est une œuvre d'art. Il est d'une simplicité de style, de langage, des mots d'une ou deux syllabes en grec, mais d'une profondeur époustouflante. Dans les versets que nous étudions aujourd'hui, Jean, l'évangéliste, en vient à parler du témoignage d'un autre Jean, le témoignage de Jean-Baptiste. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Avant de regarder au témoignage de Jean-Baptiste, posons-nous la question suivante. Pourquoi Jean, dans son évangile, en vient-il à parler de Jean-Baptiste? À première vue, ces versets 6 à 8 semblent tomber un peu comme un cheveu sur la soupe, n'est-ce pas? Le récit de Jean semblerait bien plus fluide sans ces versets, si on enlevait les versets 6 à 8. Voici ce que cela donnerait si on enlevait ces versets. Verset 5, « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. » Verset 9, « Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Ce serait presque plus fluide sans ces versets 6 à 8. On passe de ce portrait grandiose de la parole préexistante, de l'éternité de son existence, Jésus, à Jean-Baptiste. Et si Jean-Baptiste est un homme remarquable, le contraste est quand même saisissant dans ce prologue. Alors pourquoi introduire ici Jean-Baptiste ? La raison, me semble-t-il, est simple. Dans ce prologue de Jean, nous trouvons tous les thèmes sur lesquels il reviendra tout au long de son évangile. Un des thèmes chers à Jean est celui du témoignage. Si la lumière est venue et qu'elle n'a pas été étouffée par les ténèbres, et si cette lumière brille encore aujourd'hui, c'est parce que Jésus-Christ aura toujours au sein des ténèbres des témoins de sa merveilleuse lumière. Il aura toujours des témoins de sa merveilleuse lumière. Versets 6 à 8. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Dans ces versets 6 à 8, à trois reprises, Jean parle du témoignage. Il vint comme témoin pour rendre témoignage, verset 7. Et verset 8, encore une fois, il vint pour rendre témoignage à la lumière. Ce témoignage de Jean-Baptiste, il sera rapporté dans la suite de ce même chapitre, Jean chapitre 1er, versets 29 à 31. Le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus s'approcher de lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est celui à propos duquel j'ai dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. Pour ma part, je ne le connaissais pas, mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptisé d'eau. » Tout l'évangile de Jean est rythmé par ces témoignages rendus à Jésus. Comme cet homme aveugle-né guéri par Jésus qui affirmera « J'étais aveugle et maintenant je vois. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Jean chapitre 9, versets 25 à 32 pour ce récit. Jésus lui-même rendra témoignage à sa propre personne. « Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis le vrai plant de vigne. » L'évangile de Jean est rythmé par ces témoignages. Et c'est d'autant plus frappant dans la comparaison avec les autres évangiles. Chez Matthieu, Marc et Luc réunis, le mot « témoin » apparaît à 4 reprises. Chez Jean, à 14 reprises. Le verbe témoigner, à 2 reprises chez Matthieu, Marc et Luc ensemble. Chez Jean, à 33 reprises pour le mot témoigner. Donc à 47 reprises dans l'évangile de Jean, il est question du témoignage. Dès l'introduction de son évangile, ce que l'on appelle le prologue, Jean présente la manière dont Dieu choisit d'agir dans sa grâce pour faire reculer les ténèbres. Et pour faire briller la lumière de Christ, Dieu va se servir du témoignage d'hommes et de femmes. Il va se servir du témoignage. Et cela est merveilleux. Dieu, dans sa grâce, choisit d'utiliser des hommes et des femmes si limités pour annoncer la bonne nouvelle de la parole préexistante, créatrice et porteuse de vie, Jésus-Christ. Jésus, qui est si infiniment grand, brillera dans ce monde de ténèbres grâce au témoignage de personnes si infiniment petites, limitées et insignifiantes. C'est époustouflant à savoir cela. Et ça n'avait pas à être ainsi. Dieu n'avait pas fondamentalement besoin de Jean-Baptiste. Il n'a pas vraiment besoin de l'être humain. Il aurait pu utiliser ses anges, la nature, ou même tout simplement sa volonté, et cela aurait suffi. Mais Dieu choisit d'appeler et d'envoyer des êtres humains pour rendre témoignage à la lumière. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Alors que la lumière est venue dans le monde, Dieu a envoyé Jean-Baptiste pour témoigner de cette lumière. Dieu n'avait pas à faire ainsi. Jésus aurait pu se faire connaître par lui-même, par son enseignement, par ses miracles. Il est, après tout, la lumière du monde. Il est la parole préexistante. Il est Dieu incarné. Mais c'est tel un roi, précédé par son héros, son messager, que Jésus arriva. Comme un roi précédé par son messager. Il arrive bientôt, celui qui est la parole préexistante. Il arrive, celui qui est la lumière du monde. Il arrive pour faire reculer les ténèbres et faire briller la lumière de Christ. Dieu va se servir du témoignage d'hommes et de femmes. Il est merveilleux de savoir cela. Il est assez rare pour un prédicateur de pouvoir commencer avec les applications, donc j'en profite aujourd'hui. C'est Dieu qui a appelé Jean-Baptiste à témoigner. C'est le même qui appela Jean l'évangéliste à témoigner. C'est pour cela qu'il écrit son évangile, afin que tous croient. C'est Dieu qui appela les apôtres et premiers disciples à témoigner. C'est ce même Dieu qui, aujourd'hui encore, nous appelle à témoigner. C'est ce même Dieu. Voici ce que Jésus annoncera dans le sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi, ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. L'importance du témoignage. Dieu ne laisse et ne laissera jamais Jésus-Christ sans témoin. Dans nos vies, par notre attitude, par nos paroles, nous sommes appelés à être témoins de Jésus-Christ. C'est d'ailleurs la promesse que Jésus-Christ formulait à ses disciples avant de retourner auprès du Père dans le livre des Actes, Actes chapitre 1, verset 8. « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins par le Saint-Esprit. » Sommes-nous conscients que Dieu nous appelle à témoigner ? Ce n'est pas quelque chose de facultatif. Mais c'est ainsi que la lumière de Christ sera propagée. Dieu aurait pu agir autrement. Mais il a décidé dans sa grâce de nous mettre au service de la parole préexistante, Jésus-Christ. Dieu nous appelle à témoigner. Il nous appelle à témoigner en tant qu'Église, c'est-à-dire communautairement, c'est vrai. Mais Dieu souhaite avant tout, ce que Dieu souhaite avant tout, c'est que nous témoignions individuellement. Individuellement. Si nous nous disons, dans notre église, nous avons la rencontre découverte, nous avons semé à Montparnasse et au marché Saxe-Breteuil, nous avons Horizon Dieu, nous avons la soirée du 72 à la mairie du 7e, alors je n'ai pas, moi, besoin de témoigner. Nous sommes complètement à côté de la plaque. Complètement. Dieu attend de nous que nous soyons des témoins là où nous sommes. Pas besoin d'être chrétien depuis 40 ans, pas besoin d'être un ancien de l'Église ou responsable d'activité pour témoigner de la lumière de Christ. Chaque chrétien est invité à témoigner. Témoigner de la lumière de Christ, c'est le cœur de la marche avec Jésus. C'est le cœur. Et c'est là où se révèle la grandeur de Dieu. Parce qu'il agit. Parce qu'il agit. Quand bien même nous sommes faibles, fatigués ou insignifiants. Si nous cherchons à vivre pour lui, alors Dieu se servira de notre témoignage. Dieu se servira de notre témoignage. Avec l'insignifiant, Dieu fait des merveilles. Nous sommes peut-être les plus petits, mais notre Dieu est le plus grand. Et dans notre petitesse, la grandeur de Christ ne sera que d'autant plus évidente. Dieu nous appelle à témoigner. C'est une certitude. Il nous appelle à témoigner. Et Dieu vous appelle peut-être à plus encore. Peut-être vous appelle-t-il à le servir à temps plein. Ou peut-être pour un temps. Peut-être vous appelle-t-il à vous former davantage. Ne soyons pas sourds à l'appel de Dieu. Ne soyons pas sourds à l'appel de Dieu. La mission que Dieu nous confiera ne sera pas toujours simple. Mais si nous répondons favorablement à l'appel de Dieu, alors nous verrons la grandeur de Dieu se manifester malgré notre faiblesse. Dieu nous appelle à témoigner. Pour beaucoup d'entre nous présents ici aujourd'hui, si nous sommes là, c'est bien parce que Dieu a envoyé un ou des témoins sur notre route. Peut-être vos parents ou un collègue, un ami, les moniteurs du club biblique, un des participants de la rencontre semée. Quelqu'un vous a amené à vous rendre compte que leur vie pointait vers Jésus-Christ. Et cela vous a interpellé. L'importance du témoignage. Jean-Baptiste est le premier envoyé de Dieu dans le Nouveau Testament pour pointer à Jésus, le seul sauveur. Depuis, le Père ne cesse de susciter des témoins, dont l'évangéliste Jean, pour rendre témoignage au Fils. Dieu suscite témoin après témoin, afin que beaucoup croient par eux. Et cela malgré la moquerie, malgré le rejet, et malgré même la persécution. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a eu plus d'hommes et de femmes tués à cause de leur foi en Jésus-Christ au XXe siècle qu'il n'y a eu dans les 19 premiers combinés. Et les statistiques pour le XXIe siècle vont dans le même sens, voire s'empirent par rapport au XXe siècle. Les ténèbres cherchent désespérément à étouffer la lumière de Christ. Mais Jésus, la lumière brille aujourd'hui et il brillera encore demain dans les ténèbres. Parce que Dieu ne laissera Jésus-Christ jamais sans témoin. Il ne laissera jamais Jésus sans témoin. Alors quel sera le contenu de notre témoignage ? Le même que celui de Jean-Baptiste. Le même que celui de Jean-Baptiste. Je vous invite à relire les versets 7 à 13. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Si Jean nous rapporte le témoignage de Jean-Baptiste, c'est parce que ce témoignage confirme la vérité étonnante exposée dans les 5 premiers versets. La parole existait déjà au commencement. Elle était avec Dieu. Elle était Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. Il n'y en a de plus grand que Jésus. Il était auprès du Père lors de la création. Tout a été créé par lui. Il est Dieu. Il est avec Dieu. Il est la parole. Il est la lumière. Jean-Baptiste est venu pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient en Jésus-Christ. Jean-Baptiste n'est pas venu pour attirer le regard sur sa personne. Il n'est pas venu avec comme motif le gain personnel pour son ego, mais il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Rendre témoignage à la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il est venu pour rendre témoignage à la vraie lumière, Jésus-Christ. Nous ne savons pas grand-chose au sujet de Jean-Baptiste. De son appel, nous ne savons rien. Mais l'évangile de Luc nous rapporte l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste et l'annonce de sa mission. Luc 1, 17, il sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Il travaillera afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Dieu a appelé Jean-Baptiste à être témoin de celui qui venait. Il vient bientôt, celui que Dieu a promis depuis l'apparition du péché. Il vient bientôt, celui qui va ramener son peuple à Dieu. Il vient bientôt, celui qui va détruire le péché et ses conséquences. changez d'attitude, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Oh oui, il vient très bientôt, celui que Dieu enverra pour le salut. Celui que Jean-Baptiste attendait si ardemment, celui qu'il passait ses journées à proclamer, il est bel et bienvenu. Celui que Jean attendait est venu. Celui que Jean-Baptiste attendait, c'était Jésus. Jésus est celui par qui tout a été fait. Jésus, la parole, le logos, comme il est présenté dans les premiers versets, la lumière. Jésus en qui, par qui et pour qui tout a été créé, est venu dans notre monde. La lumière est venue dans ce monde de ténèbres. Cette lumière, verset 9, cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Jésus est venu éclairer tout être humain. L'être humain vit dans les ténèbres. Mais dans les ténèbres, il n'y a pas de vie. Dieu étant éclatant de lumière, il ne peut laisser de place aux ténèbres. L'incarnation de Jésus à Noël a pour but la communion avec Dieu. Si Jésus est venu, c'est afin que nous vivions par lui. C'est afin de sortir de nos ténèbres. C'est afin que nous ayons en lui pleine communion avec Dieu son Père. Il est venu pour nous sortir de nos ténèbres. Noël annonce que Dieu est allé jusqu'à envoyer son Fils sur la terre. Le Père a envoyé le Fils. Afin que nous soyons en communion avec lui, afin que nous ayons une relation avec lui, relation qui était brisée depuis l'apparition du péché. Le but de Noël, c'est que nous ayons une relation vivante, pleine avec Dieu. Voilà ce que Dieu souhaite, que nous le connaissions personnellement, nous amener dans sa lumière, nous amener dans sa lumière. Nous oublions parfois à quel point la venue de Jésus était espérée par le peuple. Dieu n'est pas entré en relation avec nous parce qu'il s'ennuyait ou parce qu'il voulait contempler son pouvoir et toute sa force. Dieu a créé l'être humain parce que Dieu est un Dieu de relation et qu'il souhaitait avoir avec nous cette relation. Nous avons été créés afin d'entrer, afin de vivre cette relation avec Dieu. Mais la chute, le premier péché rapporté en Genèse 3, est une réalité qui a fait entrer le péché dans le monde. Avec l'arrivée du péché, la relation qui existait entre Dieu et l'homme fut brisée. Et l'homme va chercher à retrouver cette relation qu'il avait avec Dieu sans malheureusement jamais la trouver. À cause de notre péché, nous n'arrivons plus à percevoir Dieu comme auparavant. Et ainsi, l'homme se retrouve complètement perdu dans d'épaisses ténèbres spirituelles. Dans d'épaisses ténèbres spirituelles. Nous avons été créés pour vivre une relation avec Dieu, mais nous n'arrivons plus à la vivre. Une fois pris dans cet engrenage du péché, il est impossible d'y échapper, à moins que Dieu n'intervienne lui-même. Voilà ce qu'annonce l'Ancien Testament. Tout au long de l'Ancien Testament est annoncée la venue d'un Messie. Messie qui va réduire le péché à néant, qui va montrer le chemin vers la vie, en étant lui-même la vie. Et Messie qui va rétablir la relation entre Dieu et l'homme. Si Jésus est venu, c'est afin de restaurer, de rétablir notre relation avec Dieu. Jésus est venu afin que nous retrouvions la relation qui existait avant la chute, avant le péché. Jésus est venu afin que nous puissions sortir des ténèbres et nous amener dans la lumière de Dieu. Nous amener dans la lumière de Dieu. Si vous essayez de regarder droit dans le soleil, ce ne sera pas possible. Au mieux, vous verrez quelque chose de flou, au pire, vous vous brûlerez la rétine. Pour voir le soleil dans sa grandeur, il vous faudra toute une série de filtres. D'une certaine manière, voilà ce que Jésus a fait pour nous. À cause de notre péché, nous nous sommes éloignés de Dieu. À cause de notre péché, notre connaissance de Dieu est devenue floue. Et il nous est impossible de voir Dieu dans toute sa grandeur à cause de notre péché. La gloire de Dieu est telle qu'elle dépasse notre capacité de l'accueillir. Face au Dieu trois fois saint dans toute sa grandeur, notre péché est évident. Notre péché nous condamne. Mais c'est pour cela que Jésus est venu. Il est venu afin que nous puissions enfin voir le Père dans toute sa grandeur, dans tout son amour, dans toute sa compassion, dans toute sa justice, dans toute sa droiture et dans toute sa puissance. Christ est Dieu incarné. Il est venu pour montrer le Père. Il est venu pour nous ramener au Père. Verset 12, à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Noël, la venue de Jésus, ce n'est pas qu'une petite histoire, ce n'est pas une légende. À Noël, il y a 2000 ans, la vie est venue sur terre. Jésus, la deuxième personne de la Trinité, s'est incarnée. En Jésus est révélé le plan du salut. Le Père, dans son immense amour, a envoyé son Fils Jésus sur la terre pour notre salut, pour que nous retrouvions une communion avec le Père, pour nous ramener dans la lumière. Dieu nous aime au point de se rendre vulnérable pour nous. C'est pour nous que Jésus est venu sur terre. Et il est venu pour plus que seulement être vulnérable. Jésus est venu pour mourir à notre place. Jésus n'a pas triché dans son humanité. La preuve, il est allé jusqu'à la mort sur la croix. Étant Dieu, il aurait pu demander qu'une armée céleste vienne le protéger et l'empêcher d'être mis à mort. Mais il a choisi de mourir pour nous. Jésus-Christ, la lumière, acceptera de passer par les ténèbres de la souffrance, de la mort. Plus encore, il acceptera de prendre sur lui toute la colère de Dieu son Père pour nous ramener dans la lumière de Dieu, pour faire de nous des enfants de Dieu. Jean, ici, nous rappelle à quel point Dieu s'est donné à nous. Dieu connaît nos souffrances, il connaît nos inquiétudes, il connaît la fatigue, la faim, la soif, parce que la parole, Jésus, a été fait chair. Et Jean insiste fortement sur l'incarnation physique de Jésus. Il n'est pas venu sous forme d'esprit, mais il est venu dans la chair. Jésus n'a pas simplement parlé, il a vécu avec nous. Verset 10 et 11, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens. Elle est venue chez les siens. En Christ, Dieu est devenu homme. Jésus, qui était homme à tout point de vue, comme nous, à l'exception toutefois du péché. Mais en même temps, il était pleinement Dieu. Jésus est venu sur terre. Et pendant toute sa vie, et même avec sa mort, il a été la lumière. Il a été la parole de Dieu. Jésus-Christ, voilà le cœur de notre témoignage. Voilà le cœur, le contenu de notre témoignage. Nous pensons parfois à tort que le cœur du témoignage chrétien, c'est notre personne. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas moi-je. Mais c'est lui. Si nous cherchons à vivre pour Dieu, si nous cherchons à plaire au Père, si nous cherchons à demeurer non pas dans les ténèbres, mais dans la lumière, alors notre vie interpellera nos concitoyens. Et alors nous pourrons parler de la vraie lumière, Jésus-Christ. Notre témoignage, c'est la personne et le message de Jésus-Christ. Mettons-le à la première place de notre vie. Cherchons à vivre pour lui au quotidien. Et alors notre vie nous amènera naturellement à parler de lui. Notre vie nous amènera à témoigner qu'en lui et en lui seul, il y a la vie. Que le Seigneur bénisse sa parole.